soir. La CENI affirme avoir réceptionné 135 dossiers, cela à la fin du dépôt des candidatures samedi dernier des gouverneurs et vice-gouverneurs de 21 nouvelles provinces. Par ailleurs, Jean Bamanissa, gouverneur honoraire de l'ex-province orientale, estime que cette élection est une occasion pour redéfinir les relations entre le pouvoir central et les provinces afin de leur permettre de se développer. Quels sont les défis qui attendent les futurs gouverneurs? C'est notre thème de ce soir et pour en parler, je reçois professeur Bouendoua Elouga ici. Bonsoir professeur.
Bonsoir cher ami, je suis bien heureux d'être parmi vous.
Vous êtes directeur du Centre de recherche et d'études sur l'Afrique orientale et des Grands Lacs. Professeur Emmanuel Banioué-Cizé, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur à l'Université de Lubumbashi, directeur général de l'École supérieure de la gouvernance économique et politique. Professeur Moïla Chiyembe, bonsoir. Vous êtes directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy en France. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
L'opération de dépôt des candidatures à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans les nouvelles provinces s'est clôturée samedi dernier. Le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante affirme que 135 dossiers ont été déposés à la CENI. On écoute professeur Onésime Koukatoula au micro de Paul Matendo.
De manière globale, la CENI a reçu 203 formulaires d'inscription de candidatures et 81 formulaires ont été retirés par les partis politiques, 10 par les regroupements politiques et 112 par les indépendants. S'agissant des dépôts de candidatures, 135 dossiers ont été déposés, dont 37 par les partis politiques, 18 par les regroupements politiques et 80 par les indépendants. Donc, au total, la CENI a enregistré 135 listes de candidatures.
Alors, ce bilan fait voir justement qu'il n'y avait pas beaucoup de candidatures dans beaucoup de provinces. Comment justifiez-vous ces manques d'engouement constatés lors de cette opération?
Non, je pense quand même qu'il y a beaucoup de candidatures parce que vous comprenez que ce sont des grands électeurs. C'est une affaire de ces élections indirectes. Donc, je pense qu'il y a quand même un engouement parce que 135 listes de candidatures, c'est quand même énorme.
Le rapporteur adjoint de la CENI a ajouté que le début de la période de retrait ajoute aux substitutions des candidatures et de 5 jours allant du dimanche 21 au jeudi 25 février 2016. La liste provisoire des candidatures par province sera publiée le 28 février 2016. Professeur Bouendoua Elouga ici, vous êtes directeur du Centre de recherche et d'études sur l'Afrique orientale et des Grands Lacs. Pour commencer, pour vous, y a-t-il eu engouement ou pas par rapport au dépôt des candidatures?
Je ne pense pas devoir accepter et admettre qu'il y ait eu un engouement parce que quand je vois par le nombre de femmes qui ont déposé leur candidature, je suis en train de me demander dans quelle république on est. Et quand on regarde, on s'est hâté d'abord lentement avant de commencer toute l'opération et après on est allé des procrastinations en délai, on est allé d'hésitation en hésitation et j'ai comme l'impression un tout petit peu que on ne sait pas où on va, on ne met pas en mouvement ce dont on dispose comme ressources pour aller vraiment à une élection qui donne la place à beaucoup de gens et j'ai comme l'impression qu'on est dans une situation d'hésitation et d'indécision à telle enseigne qu'on peut se demander réellement ce que nous sommes en train de faire.
Alors, parce que vous évoquez les candidatures féminines, je signale que sur les 135 dossiers, il n'y a que 9 femmes et il y a 13 provinces sur les 21 nouvelles qui n'ont aucune candidature féminine. C'est le cas par exemple de l'Équateur, le Haut-Uele, l'Ituri, le Kasaï Central, Kasaï Oriental, l'Omami, Maïndombe, Mongala, Sankuru, Tanganyika, Chopo, Tchopa. Professeur, comment vous expliquez cet aspect?
Je suis totalement ahuri de remarquer que la province où il y a le plus grand nombre de femmes, il n'y en a que 2 femmes qui est posée. Et alors, partout ailleurs, c'est 0. Moi, je trouve quand même que cela démontre réellement que la classe politique ne comprend pas les enjeux au fait du genre. Et ne pas comprendre les enjeux du genre, c'est ne pas comprendre la démocratie. Et ne pas comprendre la démocratie, c'est vraiment s'engouffrer dans une voie sans issue. Et je pense qu'on pourrait quand même demander au chef de l'État, d'une manière ou d'une autre, de faire corriger ces erreurs assez patentes, parce qu'il est...
Comment, par exemple? En imposant des femmes?
Oui, la parité, en imposant des femmes. Moi, je pense que la question de la parité ne devrait plus être discutable. Il est anormal. Moi, j'ai toujours considéré que la femme était l'égale de l'homme, et que, de toutes les façons, en termes de parité, en termes d'égalité, en termes de compréhension du réel et de la réalité politique, on doit aussi tenir compte des voix et des orientations féminines. Et pour cela, je pense qu'ici, nous péchons par beaucoup de manque de courage politique. Et quand il n'y a pas de courage politique, la démocratie vacille, ou à tout le moins, elle se trouve mise à mal.
Encore dans les détails, professeur, le Haut-Katanga est la province qui a enregistré le plus de candidatures, soit 16, et le Kasaï central est la province qui a enregistré le moins de candidatures, soit 2. Une fois de plus, comment vous percevez cette différence?
Je perçois cette différence par une question quand même assez centrale pour le Haut-Katanga, où se disputent beaucoup d'enjeux et où se joue, depuis l'indépendance, l'avenir de l'essentiel de ce qu'est notre République. Et je pense que l'engouement pour la chose politique au Katanga peut se bien faire comprendre, mais ceci n'explique pas qu'on se retrouve dans un tel cas de figure quand même, où il y a un nombre pléthorique de candidats. Je pense que réellement la réalité de notre pays fait que là où s'exprime le politique et où le social est mis à mal comme au Katanga, réellement les gens ont envie d'en découdre et de voir comment prendre les questions de leur quotidienneté en main.
Alors, il y a également sur les 135 listes des candidatures, 80 sont des indépendants, 37 ont été déposés par les partis politiques et seulement 18 pour les regroupements politiques. Comment vous expliquez cette tendance à l'indépendance, au fait qu'il y ait des gens qui acceptent de se présenter comme indépendants? Veulent-ils se démarquer des partis politiques ou afficher leurs propres convictions?
Je vais y répondre par une pirouette que me dictait tout à l'heure mon recteur, M. Masuga Rugamika. Tout à l'heure, me disait que en Swahili on dit Amlepa et Mwimba Jindi Uchagua Wimbo. C'est-à-dire, celui qui paie le ménestrel, celui qui choisit la chanson. Pour dire tout simplement en fait que la question des financements des partis politiques dépend aussi de la capacité de gens qui mettent en jeu leur avoir, leur savoir et leur pouvoir pour pouvoir financer des élections. Et en ce sens-là, on va remarquer très vite que là où se trouvent les enjeux d'argent, se trouvent aussi les enjeux de pouvoir. Et pour cela, l'élection chez nous l'augure assez souvent de bien mauvaises choses en ce sens-là.
Alors, il y a des provinces où aucun parti politique n'a déposé de candidature. C'est le cas du Bas-Ouélé, du Kasaï central. C'est assez ahurissant.
C'est assez ahurissant parce que tout simplement la donne politique n'est pas claire pour tout le monde. Parce qu'il y a, on a comme l'impression d'être dans une situation où les dés sont pipés, où les cartes sont biseautées, à telle enseigne que on marche presque sur une scène où les incertitudes sont nombreuses et on a comme l'impression qu'on a des marionnettes qui sont en train de se pavaner sur le fronton, comment dire, le haut du podium, alors qu'il y a des gens qui tirent les ficelles par derrière. Et c'est ainsi qu'on remarque très bien que la plupart des gens sont dans l'indécision et quand ces gens se décident, assez souvent c'est en tenant compte de ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ayant pillé la République, disposent d'un certain nombre de biens qui leur permettent d'acheter l'élection plutôt que de recourir au système électoral lui-même.
Professeur Emmanuel Bagnoué-Cizé, vous êtes professeur à l'Université de Lubumbashi, directeur général de l'École supérieure de la gouvernance économique et politique.
pour commencer également, est-ce que vous partagez le point de vue de professeur Bouendoua qui pense qu'il n'y a pas eu engouement?
Oui, je crois effectivement, comme il a dit tout à l'heure, qu'il n'y a pas eu engouement. Puisqu'on peut, on peut le constater, et ce qui est frappant, je crois qu'il n'a pas relevé suffisamment cet aspect-là, c'est de voir, par exemple, que les partis politiques qui ont déposé les listes sont au nombre de 34. Alors qu'on dit que dans ces pays, il y a plus ou moins 400 partis politiques, voire 500 partis politiques. En tout cas, dans cette ville de Kinshasa, il y a au moins 500 partis politiques et qui agitent les drapeaux lorsqu'il y a des manifestations. Mais maintenant qu'il y a des enjeux politiques, qu'il y a une élection en vue, on ne voit pas ces partis-là se manifester et postuler à des postes qui sont ouverts à la concurrence. Et donc, on peut noter qu'il n'existe vraiment pas une centaine de partis politiques.
En réalité,
dans ces pays. C'est ce qu'on peut noter, sinon on aurait pu le voir. La preuve même, c'est qu'il y a plus d'indépendants que d'organisations de partis politiques. Ce qui donne déjà à penser sur la qualité de ces partis politiques-là.
Alors,
maintenant, je voudrais revenir à ce que le professeur Bouendoua a dit tout à l'heure. Enfin, quand il pensait qu'il faudrait que les chefs de l'État interviennent pour...
La question du genre des parités, remonter le nombre des femmes.
Non, je crois que, dans tous les cas, le dépôt des candidatures était ouvert à tous. Et les femmes pouvaient se présenter soit à l'intérieur de partis politiques, parce qu'en tout cas, elles prétendent militer dans des partis politiques, soit elles pouvaient se présenter à titre des candidates indépendantes. Elles ne l'ont pas fait. Ça signifie aussi ici que nous sommes là face à une réalité qui nous dit exactement comment se présente aujourd'hui la question du genre et de la parité dans notre pays. Lorsqu'on laisse la nature elle-même organiser les choses, on se rend compte effectivement que les femmes se disqualifient elles-mêmes. Bon, maintenant, si on cherche à les
imposer... C'est un problème culturel.
Bon, je ne sais pas si c'est un problème culturel ou sociologique, mais en tout cas, on les voit très actifs dans les partis politiques et même autour de la date
pour chanter, danser,
du 8 mars, surtout. On les voit très actifs. Mais là, on ne les voit pas.
Lorsqu'il faut s'engager politiquement.
Très volontariste lorsqu'il s'agit de s'engager véritablement politiquement. Et chercher à les imposer me paraît être une posture quelque peu non démocratique.
Peu recommandable.
Voilà ce que je...
Alors, le professeur Bouendoua, tout à l'heure quand je posais la question d'avoir sa perception sur le fait qu'il y a, par exemple, trois provinces où les partis politiques n'ont pas déposé un seul dossier, Bazouélé, Kassai central et Kassai oriental, mais il parlait d'incertitude, d'indécision. Est-ce que cela justifierait un certain écart, professeur, entre la classe politique et la base?
Oui, disons déjà que ce qui est frappant, si on revient à cette question du parti politique, c'est de constater que, par exemple, au Bazouélé, au Kassai et même au Kassai central, même les partis qui se disent être des partis de la majorité présidentielle, et en tout cas qui semblent avoir
une envergure
nationale, ne présente pas de candidat là-bas. C'est étonnant quand même, alors que ces entités ont besoin d'être administrées. Bon, ils ne se présentent pas là-bas. Bon, maintenant, est-ce qu'il y a un écart entre les... comment vous avez formulé cela?
Entre la classe politique et la base.
Bon, je crois que je l'ai déjà dit. Si vous voulez que je revienne à cela, je pense que dans notre pays, il y a une transfiguration de politique. J'ai déjà utilisé cette expression-là pour signifier que ce qu'on peut noter, c'est que finalement nos hommes politiques sont complètement transfigurés, coupés de la base, déconnectés de la base. Surtout lorsqu'ils arrivent à Kinshasa, s'installent à Kinshasa, oublient complètement qu'ils sont issus du peuple et qu'ils doivent rester à l'écoute du peuple, qu'ils doivent canaliser les aspirations et les revendications du peuple, donner sens à ce que demande le peuple. Mais on se rend compte complètement qu'ils se coupent de cela, ils parlent. En monopolisant les médias, en pensant que plus on parle sur les médias et plus on a de la notoriété et que donc plus on a la base derrière soi, alors qu'on n'en a pas véritablement. Et on peut donc le constater qu'autant il y a d'hommes politiques dans ces pays, autant ils ne sont pas prêts à descendre à la base pour aller travailler pour la population là-bas.
Alors, on revient, professeur, à la question de ces 80 personnes qui se sont présentées comme indépendantes, candidats indépendants. Et donc, est-ce qu'on pourrait comprendre par le fait que éviter la casquette du parti politique me permet à moi, en tant que candidat, de plus mettre en exergue ma personnalité, ma personne.
Bon, moi je crois que le fait qu'il y a beaucoup de gens qui se présentent sous les casquettes d'indépendants, cela peut signifier aussi qu'il y a une aversion vis-à-vis des partis politiques. Par rapport aux partis politiques dans notre pays. Beaucoup de gens sont déçus par le fait que les partis politiques dans notre pays sont en tout cas construits autour de la parenté. Et puisqu'ils sont construits autour de la parenté, il n'y a pas non plus d'idéologie, il n'y a pas de programme très clair discuté publiquement, et il n'y a pas non plus de débat démocratique à l'intérieur de ces partis politiques. Et le fait qu'il n'y a pas de débat démocratique, qu'il n'y a pas donc de discussion, cela fait que finalement, ceux qui ne sont pas membres de la parenté, ou en tout cas qui n'ont pas la faveur du, comment on appelle, de la personne morale, parce que finalement...
De l'autorité morale.
Voilà, l'expression autorité morale remplace l'expression le président fondateur. Finalement, c'est le nouveau président
fondateur. Donc ces personnes-là se sentent écartées.
Ils se sentent écartés et ils développent une aversion par rapport au parti politique et préfèrent se présenter autrement.
Professeur Bouendo, est-ce que vous partagez cet aspect de manque de démocratie, d'idéologie dans les partis politiques qui pousserait certaines personnes à se présenter comme indépendants?
Absolument, je partage totalement l'analyse de Banessise, parce que la vraie question qui se pose ici, elle est celle vraiment d'une absence totale d'une sorte de boussole politique, une sorte de programmation, et la parenté et tout ce qu'on appelle le népotisme gangrène tellement la vie politique autour des leaders qui font des ligablos politiques plutôt que des partis politiques, et à telle enseigne que sincèrement une sorte de bouderie contre la vie politique où les partis politiques s'installent et fait que réellement il n'y a pas d'engouement.
Professeur Moïla Tchiembe, vous êtes directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy en France. Professeur Bouendoua et Baniwe Cizé affirment pour eux qu'il n'y a pas eu engouement. Est-ce que c'est votre avis aussi?
Je pense que c'est pas lieu de donner raison à mes deux distingués collègues, dans le sens qu'on a quand même 500 partis politiques. Les provinces sont de centres d'impulsion et de développement au sens constitutionnel du terme, et que, ma foi, lorsqu'on voit ces 135 dossiers sur 500 partis, on peut bien se poser des questions. Alors, c'est deux choses l'une, ou bien les gens ne veulent pas y aller, ou alors ils veulent y aller, mais ils sont un peu fatigués. Alors, pourquoi les gens sont-ils fatigués? Peut-être un problème de crédibilité de l'élection, parce que aujourd'hui, s'il faut faire le choix du gouverneur, le corps électoral est composé des députés sortants qui appartiendraient probablement à un ou deux partis ou trois partis de l'ancienne majorité, en gros. Alors, on peut penser que les cartes sont biseautées, le jeu est tout à fait joué d'avance, parce que si vous n'appartenez pas à la majorité présidentielle dans beaucoup de cas, vous n'avez aucune chance de l'emporter, étant entendu que ce sont les partis de l'ancienne majorité présidentielle qui tiennent la maison, au sens des députés sortants. Alors, peut-être que si l'élection du gouverneur était au suffrage universel, probablement que le destin de cette élection changerait. Alors, il y a aussi, ce que les collègues ont bien indiqué, le fait que le nationalisme de l'État a changé de camp et a laissé la place au nationalisme tribal que l'on voit triomphant partout dans tous les échiquiers de l'État et de la société. Cela fait que, écoutez, si vous n'appartenez pas aux groupes ethniques qui ont pignon sur rue, vous n'avez aucune chance d'emporter une élection qui se joue à ce degré seulement de quelques députés sortants. Et ensuite, beaucoup de gens ne se font pas d'illusions parce que les réels pouvoirs de la province qui sont dans la Constitution, on les voit rarement dans la pratique. Vous savez bien que le principe de 40% qui est inscrit dans la Constitution n'a jamais été appliqué. Et, ma foi, les provinces sont un peu à l'enfant pauvre, qui se débrouillent du mieux qu'elles peuvent, selon peut-être le Katanga, le Bakongo, l'ancienne province orientale dans sa configuration globale. Mais aujourd'hui, il y a peut-être de nouvelles provinces qui n'ont pas de moyens et nombre de gens ne voient pas de raison vraiment de sauter le pas. Et un collègue a parlé de femmes qui ne sont pas là. Je pense qu'il n'est pas de l'intérêt que le chef de l'État désigne des femmes. On reviendrait alors au moutisme que le pays a rejeté, voici, ben le reste déjà. Ce sont les partis politiques, à moins que le collègue ait bien voulu dire que le chef de l'État, en tant que chef moral du parti politique, impose à ce parti de présenter les femmes, ça oui. Mais ce sont les partis politiques qui ont l'obligation, effectivement, d'appliquer la parité qui ne le font pas.
Professeur, est-ce que le fait qu'il y ait beaucoup de candidats qui se soient présentés comme indépendants voudrait-il dire que beaucoup ont refusé la formule du mot d'ordre?
Bon, probablement oui, mais vous savez, ce pays est un État petitement démocratique. Dans une démocratie, nul ne peut être obligé. D'ailleurs, vous avez remarqué, Alain, que même le président de la République, il ne s'est jamais présenté sous le chapeau d'un parti politique et qu'il a toujours été élu en tant que candidat indépendant. Donc, dans un État démocratique, quand on sait la porosité, pour être poli, vous savez, les partis politiques congolais sont des objets politiques non identifiés, en dehors de quelques partis que l'on peut citer, deux ou trois, qui peuvent avoir des militants, qui peuvent avoir des cotisations, le reste, ce sont des suites, en dehors d'un chef connu, probablement, sa femme et ses enfants, ses copains, il n'y a pas grand monde derrière les 500 ou 600 partis congolais. Donc, on peut bien se demander ce que ça représente, ces partis pour nous, en dehors de deux ou trois partis.
Merci, professeur. Le gouverneur honoraire de l'ex-province orientale se félicite de ce qu'il qualifie de retour à la normale dans la gestion des 21 nouvelles provinces. Dans une déclaration à la presse au lendemain de la clôture des dépôts des candidatures à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs, Jean Bamanissa Saïdi pense que l'expérience des commissaires spéciaux n'a pas totalement répondu aux attentes d'une gestion efficiente qui devrait booster la RDC, pays émergent à l'horizon 2030. Toutefois, pour lui, tout en étant candidat indépendant de la majorité en Ituri, Jean Bamanissa Saïdi pense que certaines questions concernant les relations entre le pouvoir central et les provinces doivent être élucidées. Il a dit au micro de Jacques-Yves Molima.
Écoutez, faut-il continuer à attendre des rétrocessions de fonctionnement qui étaient, c'est vrai, réguliers? Faut-il continuer à attendre les rétrocessions de crédits d'investissement qui étaient complètement irréguliers et qui n'atteignaient même pas les 1%? Faut-il, dans notre cas, revenir sur la question de la redevance minière qui devrait être payée dans les 10 jours par le gouvernement central aux provinces qui sont productrices et exportatrices des ressources minières? Voilà un tas de questions qui, pour moi, avant les élections du 26 mars devrait quand même trouver réponse pour que nous puissions savoir si les gouverneurs vont véritablement travailler ou ils vont faire un peu de figuration, et c'est une des conditions, je crois, pour permettre à ce qu'un gouverneur puisse travailler vraiment et réaliser.
Professeur Bouendoua, vous venez de suivre l'ancien gouverneur Jean Bamanissa. Quels sont pour vous les défis qui attendent les futurs gouverneurs? Il a dit qu'il ne faudrait pas que ces gouverneurs fassent de la figuration. Il y a des défis majeurs à relever.
Je pense que le gouverneur Bamanissa parle d'expérience, et quand on parle d'expérience, je sais bien qu'il sait de quoi il parle, pour ainsi dire, si je ne raisonne pas de manière circulaire. Je pense que la tâche qui attend les gouverneurs, c'est d'abord, un, s'imprégner des réalités qui sont les leurs, leur fonder, comment dirais-je, l'économique sur la réalité locale. Comment dirais-je, j'irais presque à dire beaucoup plutôt que c'est la géographie d'un lieu qui lui dicte sa politique. Et quand la géographie d'un lieu dicte une politique, ça veut dire que tout le monde se met là pour considérer à partir des enjeux locaux, comprendre comment on peut se projeter dans l'avenir en tenant compte de l'environnement dans lequel on vit. Je pense qu'il va falloir beaucoup apprendre parce qu'il est question de créer des choses nouvelles avec rien. Et d'autant plus que l'État central ne sera pas là en train d'aider les provinces. Et je crois ce qu'il y aurait appelé les coups de jeté gamin, c'est-à-dire le compter sur soi, sera de mise pour les nouvelles provinces.
Il y a pour vous, professeur, cette réaction qui nous vient de Bukavu au sud, Kivu.
Séverin Kitchel, depuis Bukavu. Les grands défis qui attendent ces futurs gouverneurs, selon moi, sont d'abord d'installer les institutions constitutionnellement prévues et veiller à leur bon fonctionnement en construisant, réhabilitant et équipant tous leurs bureaux, mais aussi s'occuper de la sécurité et du social de leur population, c'est tout. Ils n'entament pas les volets investissement, car le temps qui leur reste, ils ne peuvent pas opérer des miracles par rapport au projet d'investissement de leur province.
Ils ne peuvent pas opérer des miracles, professeur. Ils vont diriger pendant combien de temps? Le gouverneur Bamanissa a lui-même dit qu'il ne faut pas continuer à attendre des rétrocessions de fonctionnement qui étaient irréguliers. Il ne faut pas attendre les rétrocessions de crédits d'investissement qui étaient complètement irréguliers, qui n'atteignaient même pas le 1%. Est-ce qu'ils peuvent faire des miracles, ces futurs gouverneurs?
Ils ne feront pas de miracles, mais au moins ils poseront les questions, ils fonderont les bases nécessaires pour repenser et pour penser au développement des coins qui leur sont confiés. Je partage donc entièrement l'analyse de M. Séverin Kitchel, en ce sens qu'il va falloir réellement se mettre à la tâche et se dire que c'est pas, comment dirais-je, les destins collectifs et puis les intérêts individuels des lieux qu'on pourra essayer d'échafauder des plans politiques, mais échafauder sans aucune arrogance parce que tout simplement on est dans un cas de figure politique où tout est indéterminé et indécis. Le flou dans lequel nous sommes en train de voguer politiquement, l'absence de cohésion, une sorte de d'illégitimité qui teinte toutes les institutions ne nous permettent pas d'envisager qu'on puisse vraiment échafauder des politiques qui soient les plus novatrices.
Alors, puisque vous parlez de la question, vous évoquez la question de légitimité, il y a Barouane Soumaïli de Kisangani dans la province de la Tchopo qui dit: nous nous attendons à une parodie d'élection, comment voulez-vous qu'un député provincial illégitime élise un gouverneur légitime, professeur?
On ne peut pas mieux dire. Je pense sincèrement que là, non seulement illégitime, on vogue dans l'illégalité, l'illicéité, on vogue vraiment dans tout ce qui est en marge de tout ce qu'un État peut faire de manière moderne. Mais, ceci soit dit en passant, en se mettant tous bien d'accord, sur place, là où on se trouve, les gens peuvent définir des destins nouveaux et échafauder des plans nouveaux. Je pense qu'on peut tracer le chemin vers un autre demain si tout simplement on se met d'accord et si on se met ensemble pour considérer, en ayant les yeux en face des trous, les vérités et les réalités du coin.
Professeur Baniwe Sizé, il y a pour vous cette réaction qui nous vient du sud d'Ubangi.
Didier Serge Moussa, je vous appelle de Boudjara. Si ce sera le gouverneur pour le développement des nouvelles provinces, il faut que la population dans son ensemble soutienne celui-ci. Mais si ce sont les yeux et les oreilles des hommes forts du pouvoir de Kinshasa, incapables de faire sur initiative propre, sauf sous l'impulsion du chef de l'État, et que si ce sont de simples exécutants de mots d'ordre, nous n'avons rien à attendre d'eux. Nous avons besoin des hommes choisis sans complaisance pour le développement de nos provinces et de notre pays.
Réaction, professeur.
Je suis tout à fait d'accord avec la dernière partie de son intervention, qu'il faut effectivement des gouverneurs pour impulser le développement. Parce qu'en fait, on se souviendra que la philosophie qui a présidé à la création des nouvelles provinces, c'était de matérialiser la volonté de mieux gérer les territoires et les populations qui sont sur ces territoires-là. Et si tel est le cas, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les défis sont énormes. Et effectivement, ils sont énormes parce que dans la quasi-totalité des nouvelles provinces, on peut se rendre compte qu'il y a, une carence, sinon une absence d'infrastructures, des structures de base nécessaires à l'impulsion du développement. Mais il y a surtout, dans la quasi-totalité des provinces, et surtout dans les nouvelles provinces qui ont été créées, dans ces provinces-là, les populations vivent dans la pauvreté, dans la précarité, dans le chômage, confrontés aux violences, à l'insécurité. Et on attend donc que les nouveaux gouverneurs de province puissent apporter des réponses, sinon en tout cas des débuts de réponses à ces problèmes-là, à ces défis-là. Mais ce que je pense, et peut-être ici je vais rejoindre mon collègue Bouendoua tout à l'heure, ce que je pense, c'est que je crois que nous devons arrêter de cultiver les utopies. Nous devons surtout arrêter d'habiter les utopies, d'arrêter rapidement ces discours du genre on va être un pays émergent à l'horizon 2025, à l'horizon 2030 ou 2035, alors que déjà nous ne sommes pas capables d'apporter des solutions aux problèmes de base qui se posent aux populations congolaises. Et ces problèmes de base sont considérés, en fait, sont exprimés dans la Constitution sous forme de droits fondamentaux. C'est notamment l'accès à l'eau potable, à l'électricité, à la bonne santé,
à l'éducation,
à la sécurité. Ce qu'on doit attendre de ces nouveaux gouverneurs, ce n'est pas d'inventer la roue ou de chercher à promettre la lune. Ils ne peuvent pas le faire. Il faut qu'ils fassent ce que demande le peuple congolais et qui a été exprimé sous forme de droits fondamentaux dans la Constitution. S'ils peuvent déjà, n'est-ce pas, permettre aux populations de vivre bien, c'est-à-dire d'avoir accès à l'eau potable, d'avoir accès à l'électricité, d'avoir accès à la sécurité, parce que des provinces entières sont en fait plongées dans ce qu'on peut appeler des zones grises où sont livrées à l'insécurité, aux violences. Et on a besoin que ces gens sortent du cycle des violences, qu'ils vivent dans la dignité comme des hommes. Puis maintenant, on peut penser à amorcer, si vous voulez, des actions majeures, des constructions des infrastructures, mais d'abord qu'ils posent ce qui est nécessaire pour que les populations vivent bien dans les provinces où ils sont confrontés à la pauvreté, au chômage.
Cela, professeur, ne passerait-il pas par une redéfinition de relations entre Kinshasa et les provinces, comme le disait l'ancien gouverneur Jean Bamanissa, dans ce sens que Kinshasa devrait laisser les provinces évoluer, être un peu plus autonomes, comme le dit la loi.
Naturellement, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai évoqué deux fois la Constitution. Tout est déjà dans la Constitution. Nous devons faire en sorte que nous puissions appliquer ce qui est dit dans la Constitution, parce que dans cette Constitution-là, on a coulé la volonté du peuple congolais. Cette constitution exprime la volonté du peuple congolais. La constitution nous dit déjà ce que nous devons faire. Quels sont les rapports qui doivent être établis entre les institutions nationales et les entités provinciales ou les entités territoriales. Et donc je pense qu'il suffit tout simplement d'appliquer cette constitution, ne pas l'appliquer lorsqu'il plaît, ou elle plaît plutôt à celui qui pense qu'il a quelque chose à tirer, mais il faut appliquer la Constitution parce que c'est la loi que nous sommes donnée à nous-mêmes. Voilà.
Professeur Moïla, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Lubumbashi.
Souk Mouigirwa à partir de Lubumbashi. Comment est-il possible que les élections des gouverneurs aient lieu avant celles de leurs électeurs députés provinciaux? Ça, c'est tromper le peuple. Ça prouve déjà qu'il n'y aura pas élection des députés provinciaux, même présidentielle cette année. C'est du forcing que le président de la CENI nous parle de la durée de ces gouverneurs qui seront élus, parce que ça sera un gaspillage d'argent de financer deux fois les élections des gouverneurs dans moins d'une année. Pour moi, je n'attends rien de ces gouverneurs.
Professeur Moïla.
Ben, disons qu'il y a là un problème un peu compliqué pour le temps qu'il nous reste. Disons que les gouverneurs se présentent devant une obligation d'élection. Pourquoi? Mais parce que le processus qui était prévu au mois d'août dernier ou de juillet dernier n'a pas pu avoir lieu pour la raison simple. La CENI avait estimé à tort ou à raison qu'il n'avait pas les moyens pour organiser les élections, et ma foi, la Cour constitutionnelle avait donné une injonction au gouvernement l'obligeant de prendre des mesures exceptionnelles et transitoires pour éviter que, à la tête de ce nouveau nouvelle province démembrée, que malheur n'arrive, c'est-à-dire assurer la sécurité des personnes et des biens. Voilà, cette mesure avait été critiquée par les uns, applaudie par les autres, mais le fait que la CENI ait décidé enfin d'organiser cette élection qui aurait dû avoir lieu depuis le mois d'août dernier, ce n'est pas une mauvaise chose. Alors, je comprends bien que derrière la question qui est posée, c'est le problème de temps. Alors, s'ils sont élus pour 2 ou 3 ou voire 4 mois, ça sert à quoi? Parce que cette instabilité, justement, institutionnalisée, permettra à ces hommes et ces femmes, s'ils sont élus demain, de penser déjà au départ, c'est-à-dire de mettre un peu de côté ce qu'ils ont sous la main, avec l'espérance que, bon, il faut peut-être se battre pour les élections futures. Donc à ce moment-là, ils n'auront pas le temps de se consacrer à leurs nouvelles tâches, parce qu'ils auront en vue une élection future. Et cette instabilité-là risque probablement de compromettre leur capacité à s'impliquer aux tâches d'impulsion du développement, qui est la tâche principale de province. Mais hélas, par les temps qui courent, si quelqu'un a 2, 3, 4 mois devant lui, on ne peut pas lui demander des miracles. Je comprends cette inquiétude qui est tout à fait légitime.
Alors, professeur, on parlait tout à l'heure de l'ancien gouverneur Bamanissa qui demande la redéfinition de relations entre Kinshasa et les provinces. Pour vous, cela passerait par quoi pour que ces provinces puissent effectivement se développer et que les futurs gouverneurs ne fassent pas que de la figuration?
Mais Alain, on n'a rien à redéfinir. Les collègues ont indiqué que tout est défini dans la Constitution.
Absolument.
Le problème congolais, c'est le problème de l'absence de l'esprit des lois. Ce pays a une Constitution, ce pays a des lois, mais personne ne se donne la peine d'appliquer les lois. Là où il y a par exemple les 40% qui étaient prévus pour les provinces, que personne n'a jamais honoré. Le gouvernement n'a pas tenu son engagement de remettre les 40% des revenus de province aux provinces. L'ancien gouverneur vient de parler d'une sorte de quittance qui est payée par la redevance minière. Il y a des délais pour payer ou retourner cette redevance minière. Le pouvoir n'a jamais rien fait. Alors, vous voyez, on a beau multiplier les lois, hein, la Constitution ou la République, c'est comme toutes les belles femmes du monde, hein, elle ne peut donner que ce qu'elle a. Si les autorités de la République, si les élites de la République, si les fonctionnaires de l'État, à tous les échelons, si les gens ne respectent pas la loi, qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas à chaque moment inventer des règles nouvelles que personne ne respecte. Les compétences de province sont bien définies, les moyens de suivi de province sont bien définis, que ce soit les moyens de rétrocession par l'État ou la capacité des provinces à avoir leurs ressources propres, tout ceci est défini dans la loi. Mais pourquoi ça ne se fait pas? Parce que d'abord, personne n'a l'esprit de loi dans ce pays, à quelques exceptions près, et ensuite, les gens gèrent les provinces comme ils gèrent leurs propres affaires privées. Ils n'ont de compte à rendre à personne. C'est pour cela que, évidemment, ça ne marche que là où les gens veulent faire marcher quelque chose. Et comme l'impunité est la règle, alors, s'il vous plaît, il n'y a rien à voir.
Merci, professeur. Professeur Bouendoya Désiré Sakodi Paouni depuis Lubumbashi qui dit les défis sont nombreux, tous ces gouverneurs souffriront d'illégitimité car les députés provinciaux qui sont censés les élire sont aussi hors mandat, manquent des infrastructures de base pouvant abriter les institutions provinciales. Bref, les défis sont énormes.
Oui, les défis sont énormes, mais je pense que pour un peu embrayer dans le sens de Mwahila, que je salue parce que j'aime bien cette belle figure entre Nancy et Metz, c'est pas, il sera pourquoi, parce que je dirais tout simplement, parce que c'est une petite parenthèse, je pense sincèrement qu'avant de faire respecter le droit, il faut que l'État lui-même respecte le droit et qu'on cesse cette sorte de regard où on pense qu'il y a Kinshasa et le désert congolais et Je pense qu'une fois résolue la question, que les gens se mettent à respecter la Constitution, les droits et libertés tels que c'est inscrit dans notre Constitution, nous arriverons un tout petit peu à définir un espace et une volonté politique qui permettrait, au moins, à tout le moins pour ainsi dire, d'envisager l'avenir sans constamment avoir les yeux tournés vers le passé. Et c'est ce qui nous manque beaucoup au Congo, c'est vraiment de s'asseoir un tout petit peu et de se dire, eh ben, avec tout ce dont on dispose, on peut échafauder des plans et des véritables politiques.
Louis Mutanga de Kamina, pour nous, les nouveaux gouverneurs viennent non pas pour faire du commerce, mais pour pouvoir élever le grand défi qui est d'améliorer les infrastructures, lutter contre la corruption et le détournement des moyens mis à leur disposition. Enfin, les nouveaux gouverneurs doivent éviter d'être des stars de la télévision, car rédévables à la population, professeur Bouendo.
Absolument, mais le problème, c'est que l'impunité est générale, généralisée, presque, qui se développe telle des métastases cancéreuse, mais je pense que si on arrive à se dire que tout le monde relève de la loi et qu'il peut être frappé de la même façon, on arrivera à tout le moins à savoir comment envisager, aménager une scène politique qui nous permette réellement de cesser d'être la risée de tous nos voisins et de tous les pays qui nous entourent.
On y reviendra dans des émissions beaucoup plus élaborées. Professeur, doit-on déjà faire le bilan de la gestion des commissaires spéciaux?
Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire le bilan, il est désastreux. Et d'ailleurs, c'était tout simplement inscrit dans un registre où ça ne pouvait qu'aboutir là où c'est arrivé. Tout simplement, c'était un mort-né politique, un monstre incommensurable. Heureusement qu'on va mettre fin à ça.
Professeur Banioué Cizé, un mot sur le bilan des commissaires spéciaux.
Bon, enfin, je crois que tout a été dit. Enfin, ils n'ont géré que pendant 100 jours, voyez-vous. Or, les voix s'étaient déjà levées, que ce soit au sein des partis politiques ou en dehors des partis politiques, dans les milieux universitaires, pour signifier qu'en fait, la technologie du gouvernement par la nomination des commissaires spéciaux n'avait pas de légitimité constitutionnelle et qu'il fallait rester à l'intérieur de la Constitution, qu'il ne fallait pas sortir de la Constitution sous peine de sortir de la démocratie. Mais on est quand même sorti de la Constitution, on a nommé les commissaires spéciaux et on s'est rendu compte que finalement on a fragilisé la puissance publique de l'État, on a fragilisé la territoriale, alors que l'idée c'était de renforcer les territoriales. On disait qu'il fallait réaffirmer l'autorité de l'État dans les provinces. On s'est rendu compte qu'en fait la nomination des commissaires spéciaux a produit un effet non désiré, indésirable même.
Alors
et je pense qu'il était temps qu'on sorte, puisque j'ai entendu des gens dire, écoutez, ils font plus élire les gouverneurs. Enfin, on ne peut pas rester dans la structure, dans la technologie des gouvernements par les commissaires spéciaux, parce que ça ne répondait à aucune assise constitutionnelle. Et ensuite, ça affaiblit, ça fragilise la puissance publique de l'État, ça fragilise
en
la territoire.
En conclusion, comment vous entrevoyez l'avenir de nouvelles provinces, professeur?
Bon. Dans tous les cas, les nouvelles provinces sont prévues dans la Constitution. Et puisque c'est prévu dans la Constitution, il faut absolument leur donner les moyens nécessaires pour qu'on aille vers cette expérience-là, ou qu'on matérialise la volonté de mieux gérer l'État, de gérer les populations qui sont sur ce territoire-là. Je pense que si on reste dans la Constitution, qu'on applique l'esprit de la loi, effectivement,
merci.
Ça va prendre du temps, mais ça va
on
avancer.
On y arrivera. Ok. Professeur Moïla Chiembe, comment également vous envisagez l'avenir de ces nouvelles provinces?
Disons que la question du bilan que vous posiez, il n'est pas de notre intérêt de tirer sur l'ambiance. Les commissaires spéciaux sont les victimes résignées de non-application de la loi ou même de l'absence de l'esprit de loi. Donc les pauvres ne pouvaient rien faire, ils n'avaient plus les moyens, ils n'avaient plus le temps. C'était une structure tout à fait provisoire. On peut se féliciter à tout le moins que le gouvernement ait accompli la mission, c'est-à-dire compris que c'était une mesure provisoire et qu'il fallait y mettre fin. C'est au moins ça, la République, quand on ne peut pas se tromper deux fois. Ça a été quelque chose lié à l'urgence constitutionnelle, d'accord. Ça a été fait, il y a eu des qui. Aujourd'hui, on est revenu à la normale. souhaitons que demain les choses aillent mieux dans le sujet républicain.
Merci, professeur. Professeur Bouyendoua, en guise de conclusion, comment vous voyez l'avenir des nouvelles provinces?
Je pense que je finirai par dire tout simplement que, voyant l'avenir des nouvelles provinces, on peut dire qu'il n'est pas besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Osons et nous allons voir que nous pouvons créer demain à partir d'aujourd'hui.
Merci, monsieur, d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que je recevais professeur Bouyendoua et Lougaïssi, directeur du Centre de recherche et d'études sur l'Afrique orientale et des Grands Lacs, professeur Emmanuel Banioué-Cizé, professeur à l'Université de Lubumbashi et directeur général de l'École supérieure de la gouvernance économique et politique, et professeur Moïla Chiembe, directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy en France. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Réalisation Kéline Kouté, assistée de Berry Franklin Luchaka. Mise en onde Alain Goy, supervision Julien Nyamouini, coordination et présentation Alain Rung-Mouchige. Au revoir.